Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
En 1992, Gallimard éditait le premier volume dans la Pléiade des œuvres de Hans Christian Andersen dans une nouvelle traduction de Régis Boyer. À cette occasion, ses œuvres, au fond plus célèbres que connues, France Culture proposait à ses auditeurs de les redécouvrir ou de les découvrir, magnifiquement lues par Michel Piccoli, dans une série en 4 volets. C'est le dernier numéro de cette série que nous allons entendre ici, dans lequel Michel Piccoli lisait 3 contes, et justement pas parmi les plus connus d'Andersen, Le Faux-Col, Le Pou et le Professeur, et pour terminer, 12 en voiture de poste. Les contes de Hans Christian Andersen, présentés par Régis Boyer et lus par Michel Piccoli, 12 en voiture de poste et autres contes, 4e et dernière émission de la série, diffusée pour la première fois, le 1er janvier 1993, sur France Culture.
Hans Christian Andersen, né le 2 avril 1805 à Odense, en Fionie, au Danemark. Mort à Rolighed, près de Copenhague, le 4 août 1875. Andersen, eventyr, historier, fortællinger, paralleller.
Eventyr, historier, legender, fortællinger, anekdoter, parabeller, kont, savn, legender, kont Andersen og anekdoter. Kont, kont Andersen. Aujourd'hui présenté et nouvellement traduit par Régis Boyer, lu par Michel Piccoli.
12 med posten og andre eventyr. 12 en voiture de poste et autres contes.
Comme vous le savez peut-être, Andersen n'a pas composé que les rituels contes que tout le monde connaît, la petite sirène, la petite fille aux allumettes, le vilain petit canard, etc. Il en a composé 173, qui figurent d'ailleurs tous dans le volume de la Pléiade dont il est question ici. Nous allons en entendre 3 qui sont très peu connus, malheureusement, quoiqu'ils soutiennent la comparaison avec les grands classiques, et qui illustrent 3 facettes distinctes de l'inspiration d'Andersen. On commencera par une sorte de fantaisie qui s'intitule « Le Faux-Col », qui est personnifié. La personnification est du type inattendu, elle échappe au crochet de notre analyse habituelle. Ce conte est tout à fait différent du second, Le Pou et le Professeur, qui illustre le côté baroque de l'inspiration d'Andersen et aussi son admiration inconditionnelle pour les réalisations de la technique moderne. Quant au 3e et dernier conte que vous entendrez, 12 en voiture de poste, il se range dans une catégorie de contes qu'affectionnait particulièrement l'époque d'Andersen, en faisant appel à toute une quantité de croyances populaires, de thèmes folkloriques, tout à fait typiques du Danemark, ce qui fait que ce conte, peut-être, vous dépaysera davantage que beaucoup d'autres.
Andersen, Le Faux-Col. Il y avait une fois un élégant cavalier dont tout le mobilier consistait en un tire-botte et un peigne, mais il avait le plus beau faux-col du monde, et c'est sur ce faux-col que nous allons entendre une histoire. Il était assez vieux pour envisager de se marier, et il se trouve qu'il fut mis à laver avec une jarretière. Ça alors, dit le faux-col, je n'ai jamais vu personne d'aussi svelte, d'aussi délicat, tendre et mignon. Puis-je vous demander votre nom ? Je ne le dirai pas, dit la jarretière. « Où habitez-vous ? » demanda le faux-col. Mais la jarretière était si timide de sa personne qu'elle trouva la question étrange. « Vous devez être une ceinture, » dit le faux-col, « une sorte de ceinture de dessous. Je vois bien que vous êtes et utile et décorative, petite demoiselle. »« Il ne faut pas me parler, » dit la jarretière, « il me semble que je n'ai pas donné matière à cela. » Si, quand on est aussi charmante que vous, dit le faux-col, il y a suffisamment matière. Cessez de m'approcher de la sorte, dit la jarretière. Vous avez l'air tellement viril. C'est que je suis un élégant cavalier, dit le faux-col. J'ai un tire-botte et un peigne. Ce n'était pas vrai. En fait, c'était son maître qui les avait, mais il se vantait. Ne m'approchez pas, dit la jarretière, je n'ai pas l'habitude de cela. Prude, dit le faux-col. Puis on le retira de la lessive. On l'amidonna, on le pendit à la chaise, au soleil, puis on le posa sur la table à repasser. Arriva le fer chaud. Madame, dit le faux-col, petite dame veuve, je deviens tout chaud. Je ne suis plus le même. Je sors carrément de mes plis. Vous me faites des trous en me brûlant. Ouh, je demande votre main. Guenille, dit le fer à repasser en passant fièrement sur le faux-col, car il imaginait être une chaudière à vapeur qui allait être mise sur rail et traîner des wagons. Guenille, dit-il. Le faux-col s'effilochait un peu sur les bords, et voilà les ciseaux qui arrivaient pour couper ses effilochures. Oh, dit le faux-col, vous devez être la danseuse étoile. Comme vous savez tendre la jambe, c'est ce que j'ai vu de plus ravissant. Aucun être humain ne peut vous imiter. Je le sais, dirent les ciseaux. Vous méritez d'être comtesse, dit le faux-col. Tout ce que j'ai, c'est un élégant cavalier, un tire-botte et un peigne. Si seulement j'avais un comté. Est-ce qu'il me fait la cour, dirent les ciseaux, qui se fâchèrent, et lui firent une fameuse coupure, ce qui le remit à sa place. « Alors, il faut que je fasse la cour au peigne. »« C'est extraordinaire, comme vous conservez toutes vos dents, petite demoiselle, » dit le faux-col. « Et vous n'avez jamais pensé à vous fiancer ?»« Si, vous le savez bien, » dit le peigne. « Je suis fiancé au tire-botte, voyons. »«
Fiancé, » dit le faux-col. Du coup, il n'y avait plus personne à qui faire la cour, et il traita l'affaire par le mépris. Un bon moment passa, puis le faux-col parvint dans une caisse chez le papetier. Il y avait là grande compagnie de chiffons, les beaux d'un côté, les grossiers de l'autre, comme il convient. Ils avaient tous beaucoup de choses à raconter, mais surtout le faux-col. C'était un vrai hâbleur. « J'ai eu un nombre formidable de fiancés, » dit le faux-col. « Je ne pouvais rester tranquille. » Il faut dire que je suis un élégant cavalier à mi-donné. J'avais et un tire-botte et un peigne dont je ne me servais jamais. Vous auriez dû me voir ce temps-là quand j'étais couché sur le côté. Jamais je n'oublierai ma première fiancée. C'était une ceinture tellement délicate, tendre et mignonne. Elle s'est précipitée dans un cuveau à cause de moi. Il y eut aussi une veuve qui s'enflamma, mais je l'ai plantée là, elle en est devenue noire. Il y eut la danseuse étoile, elle m'a donné l'estafilade que je porte encore. Elle était tellement avide. Mon propre peigne s'amouracha de moi. Ses chagrins d'amour lui firent perdre toutes ses dents. Eh oui, j'ai vécu beaucoup de choses de ce genre. Mais j'ai surtout de la peine pour la jarretière. Je veux dire la ceinture qui alla dans le cuveau. J'ai bien des choses sur la conscience. J'ai bien besoin d'être transformé en papier blanc. Et c'est ce qu'il devint. Tous les chiffons devinrent papier blanc. Mais le faux-col devint précisément ce morceau de papier que nous voyons ici sur lequel cette histoire est imprimée. Et c'est parce qu'il se vantait si affreusement après coup de ce qui n'était jamais arrivé. Et il faut y penser, ne pas nous conduire pareillement, car nous ne pouvons par ma foi jamais savoir si nous aussi, nous n'arriverons pas un jour dans la caisse aux chiffons pour être transformés en papier blanc et avoir toute notre histoire imprimée sur nous, y compris ce qu'elle a de plus secret, et devoir ensuite courir partout la raconter, comme le faux-col.
Le Pou et le professeur. Il y avait un aéronaute pour qui tout alla mal, son ballon creva, l'homme tomba et se brisa en morceaux. 2 minutes plus tôt, il avait fait descendre son garçon en parachute. Ce fut la chance de ce garçon. Il s'en tira indemne et manifestait de grandes connaissances pour devenir aéronaute, mais il n'avait pas de ballon et pas de moyens de s'en procurer un. Il lui fallait vivre, et donc il entreprit de faire des tours de passe-passe, de parler avec le ventre, cela s'appelle être ventriloque. Il était jeune et avait bonne allure. Quand il eut une moustache et put s'habiller comme il faut, on aurait pu le prendre pour un fils de comte. Les dames le trouvaient beau, il eut même une demoiselle pour s'éprendre tellement de son charme et de ses tours de passe-passe qu'elle l'accompagna dans les villes et les pays étrangers. Là, il se faisait appeler professeur. Il ne pouvait faire moins. Sa constante pensée était de se procurer un ballon et de monter dans les airs avec sa petite femme, mais il n'avait pas encore les moyens. « Ça viendra, » disait-il. « Si seulement, » disait-elle. « Mais nous sommes jeunes, et maintenant je suis professeur. Des miettes, c'est aussi du pain. » Elle l'aidait fidèlement, se tenait à la porte et vendait les billets pour la représentation, ce n'était guère un plaisir en hiver. Elle l'aidait aussi pour un de ses tours. Il fourrait sa femme dans un tiroir de la table, un grand tiroir. Là, elle se glissait dans le tiroir de derrière, et on ne la voyait plus dans celui de devant, c'était comme un mirage. Mais un soir, quand il ouvrit le tiroir, elle aussi avait disparu. Elle n'était pas dans le tiroir de devant, pas dans le tiroir de derrière, pas dans toute la salle. On ne la voyait pas, on ne l'entendait pas. C'était son tour de passe-passe à elle. Elle ne revint jamais. Elle en avait assez. Et il en fut très ennuyé. Il perdit sa bonne humeur. Il ne savait plus rire ni faire des farces, et il ne vint plus personne. Le bénéfice fut mauvais, les costumes furent mauvais. Finalement, il ne possédait qu'un gros pou, un héritage de sa femme. Aussi l'aimait-il beaucoup. Et donc il le dressa, lui apprit des tours de passe-passe, lui enseigna à présenter les armes et à tirer du canon. Mais petit. Le professeur était fier de son pouls et lui était fier de lui-même. Il avait appris quelque chose, il avait du sang humain, il avait été dans les plus grandes villes, des princes et des princesses l'avaient vu, il avait obtenu leurs nobles applaudissements, c'était imprimé dans les journaux et sur les affiches. Il savait qu'il était une célébrité, qu'il pouvait faire vivre un professeur, voire toute une famille. Fier il était, et célèbre il était, et pourtant, quand lui et le professeur voyageaient, il prenait la quatrième classe en chemin de fer. Elle arrivait aussi vite que la première. Il y avait entre eux une promesse tacite. Il ne se quitterait jamais, ne se marierait jamais, le pouls resterait vieux garçon et le professeur veuf. Cela revient au même. Là où l'on a le plus de succès, disait le professeur, il ne faut jamais revenir. Il s'y connaissait en homme. C'est un savoir, ça aussi. En fin de compte, il avait parcouru tous les pays, sauf les pays des sauvages. Et donc, il voulut aller au pays des sauvages. Là, évidemment, on mange les chrétiens. Le professeur le savait. Mais il n'était pas vraiment chrétien, et le pouls n'était pas vraiment humain. Aussi pensait-il qu'il pourrait sans doute y aller et faire un bon bénéfice. Ils prirent le bateau à vapeur et le bateau à voile. Le pouls fit ses tours, ainsi ils eurent le passage gratuit, et arrivèrent au pays des sauvages. Régnait là une petite princesse. Elle n'avait que 8 ans, mais elle régnait. Elle avait enlevé le pouvoir à son père et à sa mère, car elle avait de la volonté, et elle était incomparablement charmante et mal élevée. Dès que le pou présenta les armes et tira du canon, la princesse fut tellement séduite qu'elle dit « Lui ?» ou personne. Elle était prise d'un amour sauvage, et elle était déjà sauvage préalablement, n'est-ce pas ? Gentil petit enfant raisonnable, dit son père, si seulement on pouvait d'abord en faire un homme. Ça, c'est mon affaire, le vieux, dit-elle, et ce n'était pas gentil de la part d'une petite princesse qui parle à son père, mais elle était sauvage. Elle posa le pouls sur sa petite main. « Maintenant, tu es un homme, tu règnes avec moi, mais tu vas faire ce que je veux, sinon je te tue et je mange le professeur. Le professeur eut une grande salle pour loger. Les murs étaient de canne à sucre, il pouvait les lécher, mais ce n'était pas un gourmet. On lui donna un hamac pour dormir. C'était comme s'il était en ballon, ce ballon qu'il avait toujours désiré et qui était sa constante pensée. Le pou resta chez la princesse, posé sur sa petite main ou sur son cou délicat. Elle s'était enlevé un cheveu de la tête que le professeur dut attacher à la patte du pou et elle le tint lié au gros morceau de corail qu'elle avait au lobe de son oreille. Comme ce fut une époque merveilleuse pour la princesse, pour le pou aussi, pensait-elle. Mais le professeur ne se trouvait pas satisfait. Il était voyageur, il aimait passer de ville en ville, lire dans les journaux ce qu'on disait de sa patience et de son habileté à enseigner à un pou tous les actes humains. À longueur de journée, il restait étendu dans son hamac, paraissait et prenait ses bons repas. Des œufs frais d'oiseaux, des yeux d'éléphant et des cuisses rôties de girafe. Les anthropophages ne vivent pas seulement de chair humaine, c'est une friandise. L'épaule d'enfant à la sauce piquante, disait la mère de la princesse, c'est ce qu'il y a de plus délicat. Le professeur s'ennuyait, et il aurait bien voulu quitter le pays des sauvages, mais il fallait qu'il emmène le pou, c'était sa merveille et son gagne-pain. Comment le capturer? Ce n'était pas si facile. Il concentra toutes ses facultés, puis il dit « J'ai trouvé ». « Père de la princesse, accordez-moi quelque chose à faire. Faut-il que j'entraîne les habitants du pays à présenter les armes? C'est cela que dans les plus grands pays du monde, on appelle l'instruction. Et qu'est-ce que tu peux m'apprendre à moi ?» demanda le père de la princesse. « Mon plus grand tour, dit le professeur. Tirer du canon, de telle sorte que toute la terre tremble et que tous les oiseaux les plus succulents du ciel tombent tout rôtis. Ça vaut le coup. Amène le canon, dit le père de la princesse. Mais dans tout le pays, il n'y avait pas de canon, hormis celui que le pou avait apporté, et il était trop petit. Je vais en fondre un plus grand, dit le professeur. Vous n'avez qu'à m'en donner les moyens. Il me faut un fin tissu de soie, une aiguille et du fil, de la corde et de la ficelle, plus de l'élixir parégorique pour aéronef. Ça les gonfle, ça les rend légers, ça les soulève. C'est ça qui donne la détonation dans le ventre du canon. Tout ce qu'il réclamait, il l'eut. Tout le pays se rassembla pour voir le grand canon. Le professeur ne convoqua personne tant que le ballon ne fut pas tout à fait prêt à être rempli et à monter. Le pou était sur la main de la princesse et regardait. Le ballon fut empli, il gonfla. On pouvait à peine le retenir tellement il était sauvage. « Il faut que je le mette en l'air pour qu'il rafraîchisse, » dit le professeur en s'installant dans la nacelle accrochée en dessous. « Tout seul, je ne parviendrai pas à le diriger. Il me faut un camarade qui s'y connaisse pour m'aider. Il n'y a personne ici qui le sache en dehors du pou. » « Je le permets contre mon gré, » dit la princesse, qui tendit pourtant le pou au professeur, lequel le posa sur sa main. « Larguez les cordes, » dit-il. « Le ballon va partir. » Ils crurent qu'il disait « le canon ». Et le ballon monta de plus en plus haut, par-dessus les nuages, loin du pays des sauvages. La petite princesse, son père et sa mère, le peuple tout entier, restaient à attendre. Ils attendent encore. Et si tu ne le crois pas, va-t'en au pays des sauvages, tous les enfants parlent du pou et du professeur. Ils crient qu'ils reviendront quand le canon sera refroidi, mais ils n'arrivent pas. Ils sont ici, chez nous, ils sont dans leur patrie, ils prennent le chemin de fer, première classe, pas quatrième. Ils font un bon bénéfice, ils ont un bon ballon, personne ne demande comment ils ont eu ce ballon ou d'où ils le tiennent. Ce sont des gens florissants, des gens honorés, le pou et le professeur. 12 en voiture de poste. Il gelait à Pierre Fendre, ciel étoilé, calme plat.
Boum ! On fracassa un pot sur la porte. Paf ! On tirait des coups de fusil en l'honneur du nouvel an. C'était la Saint-Sylvestre. Minuit sonna. Tra-té-ra-tra ! Voilà la voiture de poste !
La grosse diligence s'arrêta aux portes de la ville. Elle amenait 12 personnes. Elle ne pouvait en contenir davantage. Toutes les places étaient occupées.
Hurrah ! Hurrah ! Chantait-on dans les maisons où les gens fêtaient la Saint-Sylvestre et venaient de se lever, le verre plein, buvant à la nouvelle année.
Santé et prospérité pour la nouvelle année, disait-il. Une petite femme, beaucoup d'argent, fini les bêtises. Et l'on trinquait. Et la voiture de poste était aux portes de la ville avec ses visiteurs étrangers, les 12 voyageurs. Quels gens étaient-ce? Ils avaient passeport et bagages et même des cadeaux pour toi, pour moi, pour tout le monde en ville. Qui étaient ces étrangers? Que voulaient-ils et qu'apportaient-ils?
Bonjour, dirent-ils au gardien de la porte. « Bonjour, dit-il, car minuit avait sonné. Votre nom, votre profession » demanda-t-il au premier qui sortit de la voiture.
« Regardez dans le passeport, dit l'homme. Je suis moi. »
Il faut dire que c'était un fameux gaillard en pelisse d'ours et grosses bottes.
« Je suis l'homme en qui des tas de gens espèrent. Viens demain, tu auras des cadeaux de nouvel an. Je jette les schkilines et les risdelets à la ronde. » Je fais des présents, je donne même des balles, 31 balles en tout. Je ne dispose pas de davantage de nuit. Mes bateaux sont pris par les glaces, mais il fait chaud dans mon bureau. Je suis négociant en gros et je m'appelle Janvier. Je n'ai que des factures sur moi.
Puis vint le suivant, c'était un joyeux drille. Il était régisseur des comédies, des mascarades et de tous les plaisirs imaginables. Il avait pour bagage un gros tonneau.
« Pour le carême, on en fera sortir bien plus que le chat, dit-il. Je veux amuser les autres, et moi avec, parce que c'est moi qui ai la vie la plus courte de la famille. Je n'arrive qu'à 28. C'est-à-dire, on m'ajoutera peut-être un jour, mais ça revient au même. Hurrah !»«
Il ne faut pas crier si fort, dit le gardien.
« Mais sûrement que si, dit l'homme. Je suis le prince carnaval et voyage sous le nom de Février. »
Vint alors le troisième. Il avait l'air d'avoir vraiment jeûné, mais il faisait le fier parce qu'il était de la famille des 40 chevaliers et qu'il prédisait le temps. Mais ce n'est pas une fonction qui engraisse son homme. Aussi appréciait-il le carême. Il avait pour parure un petit bouquet de violettes à la boutonnière. Mais elles étaient toutes petites.
« Mars, en avant, marche !» cria le quatrième en poussant le troisième. « Mars, en avant, marche ! Entre au poste, il y a du punch, je le sens d'ici. »
Mais ce n'était pas vrai. Il voulait seulement lui faire un poisson d'avril. C'est par là que commença le quatrième type. Il avait l'air déluré. Il ne faisait pas grand-chose, mais il avait plein de jours fériés.
« Pour l'humeur, ça va et ça vient, dit-il. Pluie et soleil, on déménage, on emménage. » « Je suis aussi entrepreneur de déménagement, je suis ordonnateur de pompes funèbres, je sais rire et pleurer, j'ai des habits d'été dans ma malle, mais ce serait une vraie folie de s'en servir. Me voici en tenue de gala, bas de soie et manchon. »
Puis, une dame sortit de la voiture. « Mademoiselle May, dit-elle, en tenue d'été avec des galoches. Elle portait une robe de soie d'un vert feuille de hêtre, des anémones dans les cheveux, et de plus, elle sentait tellement le muguet que le gardien fut forcé d'éternuer. « Dieu vous bénisse, dit-elle, c'est ainsi qu'elle salua. » Elle était mignonne, et c'était une chanteuse aussi, pas au théâtre, mais dans la forêt. Ce n'était pas sous les tentes, oh non, mais dans la fraîche forêt verte qu'elle allait chantant pour son propre plaisir. Elle avait dans son sac à ouvrage les gravures sur bois de Christian Winter, parce qu'elles sont comme la forêt de hêtre elle-même, et les petits poèmes de Reichardt, qui sont comme des muguets.
« Voilà la dame, la jeune dame » cria-t-on dans la voiture.
Et la dame arriva, jeune et élégante, fière et charmante. On voyait tout de suite qu'elle était née pour garder les 7 dormants. Elle donnait un banquet pour le jour le plus long de l'année, afin qu'on ait le temps de manger ses nombreux plats. Elle avait les moyens de conduire sa propre voiture, mais elle venait tout de même par la poste comme les autres, elle voulait montrer par là qu'elle n'était pas orgueilleuse. Elle ne voyageait pas seule non plus, elle était accompagnée de son jeune frère, Juillet. Il était bien en chair, en tenue d'été Panama. Il n'emportait qu'un petit bagage, c'est tellement pénible par la chaleur. Il n'avait qu'un bonnet de bain et un maillot, ce n'est pas beaucoup. Puis arriva la mère, Madame Haout, la marchande de fruits par tonneau, propriétaire de nombreux viviers, une paysanne en grande crinoline. Elle était grasse et chaleureuse, se mêlait de tout, allait personnellement porter un baril de bière aux gens dans les champs. « Il faut manger son pain à la sueur de son front, dit-elle. C'est dans la Bible. Ensuite, on peut donner un bal dans la forêt et faire la fête de la moisson. » C'était la mère. Puis ce fut de nouveau un homme. Peintre de son métier, maître coloriste, la forêt en savait quelque chose. Les feuilles durent changer de couleur, mais de façon ravissante, quand il le voulait. Bientôt la forêt eut l'air rouge, jaune, brune. Le maître sifflait comme le sang sonnait noir. C'était un travailleur habile qui accrochait à son pot de bière la vrille de houblon. Cela vous faisait une parure. Et il avait l'œil pour la parure. Il était là avec sa boîte de couleurs. C'était tout son bagage. Suivi le propriétaire terrien qui pensait au mois des semailles, au labour et même, un peu aussi, au plaisir de la chasse. Il avait chien et fusil. Il avait des noix dans son sac. Cric-crac, c'est fou ce qu'il apportait de marchandises. Et une charrue anglaise. Il parlait économie agricole, mais on n'entendait pas grand-chose à cause de la toux et des halètements. C'était novembre qui arrivait. Il avait un rhume, un gros rhume. Il lui fallait un drap et non un mouchoir. Et pourtant, il devait accompagner les bonnes qui prenaient du service, disait-il. Mais son refroidissement passerait sûrement quand il irait couper du bois. Et il le ferait car c'était le maître sieur de la corporation. Il passait ses soirées à tailler des patins. Il savait que dans peu de semaines, on aurait besoin de ses amusantes chaussures. Puis arriva la dernière, la vieille petite mère avec sa chaufferette. Elle avait froid, mais ses yeux rayonnaient comme deux claires étoiles. Elle portait un pot de fleurs avec un petit sapin. « Je vais le soigner, je vais m'en occuper. » Qu'il devienne grand pour le soir de Noël, qu'il aille du plancher au plafond, qu'il lui pousse des bougies allumées, des pommes dorées et des découpages. La chaufferette chauffe comme un poêle, je sortirai le livre de contes de ma poche et lirai à haute voix. Tous les enfants dans la pièce resteront tranquilles, mais les poupées dans l'arbre s'animeront et le petit ange de cire, tout en haut de l'arbre, agitera ses ailes dorées, s'envolera de la verte cime pour embrasser petits et grands dans la pièce, et même les enfants pauvres aussi, qui restent dehors en chantant le chant de Noël sur l'étoile de Bethléem.
« Bon, alors la voiture peut repartir, » dit le gardien. « Nous avons la douzaine maintenant qu'on avance une autre voiture. »« D'abord, qu'on fasse bien entrer ces 12-là, » dit le capitaine de garde. « Un par un. » « Je garde le passeport. Il est valable un mois pour chacun. Ce mois passé, j'inscrirai dessus comment chacun s'est conduit. S'il vous plaît, Monsieur Janvier, ayez l'obligeance d'entrer. » Et Monsieur Janvier entra.
« Quand une année aura passé, je te dirai ce que ces 12-là m'ont apporté. À moi et à nous tous. Pour l'instant, je ne le sais pas. Et ils ne doivent pas le savoir eux-mêmes, d'ailleurs. Car c'est une drôle d'époque que celle que nous vivons.
Det var et eventyr af Hans Christian Andersen.
C'était les contes de Hans Christian Andersen, présentés par Régis Boyer et lus par Michel Piccoli, 12 en voiture de poste et autres contes, quatrième et dernière émission de la série, diffusée pour la première fois le 1er janvier 1993 sur France Culture.